Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue au balado Sortie de zone, saison 5, épisode 55 de ce vendredi 19 avril. Aujourd'hui, émission spéciale série de fin de saison avec les gars de la presse qui sont avec nous. Alexandre Pratt qui est là, salut Alexandre.
Salut Jérémy.
Richard Labbé qui est là, salut Richard.
Salut Jérémy.
Et pour le 98.5 FM, Antoine Roussel qui est là, salut Antoine.
Salut la gang.
Bon, OK, les gars, comme on le dirait si bien dans la Ligue d'hockey junior maritime Québec, playoff time pour la Ligue nationale. Ah, je suis méchant, je commence fort.
Ben non, c'est réaliste.
Écoute, les séries sont arrivées dans la Ligue nationale d'hockey. Là, je vous dis aujourd'hui dans le balado, là, on va faire un survol de toutes les séries. Sauf qu'on ne fera pas ça de façon traditionnelle où on passe les séries un après l'autre dans l'Est, dans l'Ouest. Non, non, non. Ce qu'on va faire, c'est que on va se poser quelques questions dans un premier temps et par la suite, on fera le survol des autres séries. Mais surtout, je veux vous dire qu'on va se parler également des cas de l'Arizona. C'est officiel, les gouverneurs de la Ligue ont appuyé le transfert des Coyotes de l'Arizona vers Salt Lake City. En fait, cette vente, l'Arizona qui a été vendue à la Ligue nationale pour $1 milliard, et la Ligue nationale revend à Salt Lake City pour $1.2 milliard. Donc, c'est fait. La prochaine saison, c'est terminé, les Coyotes d'Arizona. Ça sera une formation avec un nom XYZ de Salt Lake City, de l'Utah. Hein? Je pense qu'on va appeler ça de l'Utah. Oui. On en reparlera un petit peu plus tard. OK, je fais un premier tour de table. Je vais vous donner dans un premier temps là, ce que vous allez regarder ce week-end. OK, ce week-end, samedi, le 20, vous avez les Islanders qui affrontent les Hurricanes. Ça, c'est à 17h. À 20h, vous avez Toronto qui affronte Boston. Dimanche, là, c'est une grosse journée dimanche. J'espère que vous êtes prêts. 12h30, Tampa Bay contre la Floride. 15h, les Capitals contre les Rangers. 19h, Colorado contre les Jets. Et 22h, les Predators de Nashville affrontent les Canucks de Vancouver. Lundi, vous aurez Vegas contre Dallas. Et vous aurez, en fin de soirée, les Kings contre les Oilers d'Edmonton. Ça, c'est le tableau des séries. Je commence avec Alexandre. Alexandre, est-ce qu'il y a une série qui va retenir ton attention dans tout ça?
Oui, ben plus qu'une, mais...
la meilleure série,
je pense que Boston-Toronto va clairement retenir mon attention. C'est quand même deux franchises qui en sont à des étapes cruciales de leur développement présentement. Et cette année, Boston a vraiment eu le dessus sur Toronto toute la saison, lorsqu'ils se sont, les deux clubs se sont affrontés. Donc, c'est la série que je vais suivre avec le plus d'attention.
OK, mais dis-moi donc, tu favorises qui dans cette série-là?
Boston. Je pense que Boston va avoir le dessus.
Tu penses que le Boston va battre le Toronto?
Oui, oui, oui.
OK. Okay,
ça, c'est le Canadien qui est. C'est le Canadien, lui, qui parle.
non, pas du tout.
Juste pour avoir Toronto être au-dessus, mais c'est
non,
pas correct.
Non, je pense que vraiment, ce qui va distinguer cette année les équipes qui vont passer puis les équipes qui vont se faire arrêter, je pense que les meilleures équipes défensives vont toutes gagner le premier tour.
Et tu considères que Boston est meilleur défensivement que Toronto?
Absolument.
Parfait. Numéro un. On va aller voir maintenant. En combien?
Je les ai mis dans la presse en 6, je crois.
OK, parfait. Donc, Boston bat Toronto en 6. On va aller voir Richard Labbé. Richard Labbé, comment ça va, mon cher ami?
Très bien, Jérémy, toi-même.
Ça va super bien. Richard, quelle série va retenir ton attention?
Écoute, je vais avoir certainement beaucoup d'intérêt pour les Oilers et les Kings parce que, tu sais, les Oilers, c'est un peu les Leafs de l'autre bord. Hein? C'est deux clubs, puis ça fait des années qu'on parle de la puissance offensive des deux équipes. On comprend des deux côtés qu'il y a des carences devant le filet, peut-être des carences à la ligne bleue. Est-ce que là, cette année, ils vont être capables de revirer ça de bord? C'est très intéressant, deux clubs canadiens, évidemment. Et les Kings, plutôt, qui arrivent un peu... je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui leur donnent des chances, mais je pense que ça va être pas mal plus difficile que prévu du côté des Oilers. Ça sera pas une marche dans le parc pour dire comme autrefois notre ami Pierre Rinfray le disait. Ça va être, je pense, très, très compliqué pour les Oilers. Puis je pense que les deux clubs qui ont le plus de pression au moment où on se parle, ce sont ces deux-là. Parce que d'un bord, les Leafs, ça fait évidemment depuis très, très longtemps, depuis la télé en noir et blanc, qu'il n'y a pas eu un défilé à Toronto. Alors, on commence à être dû, mais c'est la même chose qu'à Edmonton, c'est-à-dire qu'on a tellement de... On a des vedettes et on estime qu'avec ces joueurs-là, qui sont des joueurs de premier plan, ben on devrait au moins déjà avoir une coupe de défilé, mais on en a zéro. Alors, je pense que d'un bord et de l'autre, ce sont deux clubs qui jouent avec beaucoup de pression. Là, je vais avoir vraiment un œil très intéressé sur ces deux séries-là.
OK, parfait. Richard, avant que je te demande qui va gagner entre les Oilers et les Kings, Toronto-Boston, tu vois ça, qui gagne en combien?
Écoute, j'ai pas aimé la fin de saison des Bruins et je vais y aller avec les Leafs dans une très longue et compliquée et ardue et difficile série en 7 pour Toronto.
OK, et entre les Oilers et les Kings, comment tu vois ça?
Je vais avec la surprise. Je vais y aller avec les Kings en 7.
Les Kings vont battre les Oilers?
C'est exactement ce que je viens de dire.
J'aime ça. OK.
J'ai perdu ma connexion.
Attends, Antoine, avant d'entendre, de t'entendre là-dessus, je veux juste faire réagir Alexandre. Les Kings, les Oilers?
Les Oilers.
En combien?
5.
Aïe, 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 les gars de la presse, vous n'êtes pas parlé, là.
Ouais, il y en a un qui parle la soupe. Je sais qu'il y a une autre série aussi.
Il y a de la distorsion sur la ligne, messieurs. Il y a de la distorsion sur la ligne.
OK, donc, les Oilers en 5 pour Alexandre Pratt. Bon, Antoine, c'est à ton tour. Antoine, quelle série va retenir ton attention dans ce qu'on va voir au courant du week-end?
Il y a plusieurs personnes qui me disent de couper la fameuse corde, mais je suis simplement pas capable de le faire. Je ne suis pas capable de couper la fameuse corde qui me rattache aux Stars de Dallas. Et j'ai envie de les voir. En fait, je les vois gagner la Coupe Stanley. Je les vois battre Vegas. Et vous le savez, je pense que je vous l'ai dit à maintes reprises sur le podcast où je l'ai dit à qui veut bien l'entendre, que je déteste Vegas, je déteste ce qu'ils représentent, je déteste tout de cette équipe-là. Et quand je jouais, c'était l'équipe que je détestais quasiment le plus après les Blackhawks. Donc, j'y vois vraiment, c'est la série que je vais suivre le plus assidûment. Et bien entendu, je vais pogner pour les prendre pour les Stars. Et je pense qu'ils vont le faire en 6.
OK, donc Dallas bat Vegas en 6. Je retourne ça dans le sens inverse du cadran. Richard, Vegas contre Dallas, qui gagne et en combien?
J'ai mis les Chevaliers dorés en 6, ça.
OK, Vegas en 6 pour Richard. Oh, ça fait pas plaisir, Antoine. Alexandre?
Comme Antoine, moi aussi, je pense que les Stars sont l'équipe la mieux placée pour gagner la Coupe cette année.
Oh.
C'était mon choix en début de saison, fait que j'irai sûrement pas contre eux au premier tour. Je pense que je les ai en 6.
OK, parfait. Donc, Dallas en 6 pour Alexandre Pratt. Antoine, je dois terminer avec toi sur ce qui a déjà été avancé. Dans la série entre Toronto et Boston, comment tu vois ça, toi?
Ben, écoute, moi, personnellement, je vois Toronto remporter la première cette première ronde là, ça sera pas évident. Ça sera une situation où t'as deux bonnes équipes. En fait, c'est ça un petit peu aussi la parité qu'on a dans la ligue, c'est que c'est pas des décisions faciles quand tu regardes chaque affrontement de dire qui va gagner quoi. Oui, dans la saison, des fois il y a des affrontements qui sont un petit peu plus efficaces. Je pense qu'Alexandre l'a mentionné un petit peu plus tôt, mais des fois on n'est pas capable de faire abstraction de certaines faveurs qu'on veut voir. Tu sais, pour moi, je veux voir Toronto avancer, je veux les voir battre Boston puis avoir un long parcours en séries éliminatoires. C'est comme ça que je le souhaite. Est-ce que ça va être ça? On n'a pas de boule de cristal, bien entendu, mais je voudrais vraiment voir Toronto avancer.
En combien de matchs, Antoine?
Je pense que ça va être serré cette série-là. Ça va aller en 7 comme d'habitude avec eux.
OK, donc Toronto l'emporte en 7. Dans l'autre série, les Kings contre les Oilers, Antoine, qui tu vois gagner?
Je vois Edmonton en 5 également.
Oh, OK. Donc, Richard, t'es pas mal tout seul dans ton pays, là?
Ça fait beaucoup de gens qui vont se tromper, ça.
Mais tu sais, on parle d'une domination quand même du côté des Oilers dans le cas d'Antoine et dans le cas d'Alexandre Pratt également avec des dominations en 5 matchs. OK, les gars, moi je vais vous dire mes chiffres, OK?
Ah oui, on veut l'entendre.
OK. Moi, sincèrement, je pense que les Leafs de Toronto vont battre les Bruins de Boston. J'ai mis Toronto en 6. Okay. J'ai l'impression qu'avec les Trent Frederick de ce monde du côté de Boston, on va tenter de raviver la flamme des Big Bad Bruins. On va prendre des pénalités et l'avantage numérique des Leafs de Toronto va complètement détruire les Bruins de Boston. Bon, écoute, on verra, mais c'est ce que je pense.
Donc, qui va garder les buts déjà pour Toronto?
Ah, ça, c'est une grande question. Mais Toronto en 6, ça, c'est 1. Maintenant, entre les Kings et les Oilers d'Edmonton, je ne vois pas comment les Oilers peuvent perdre cette série-là. Malgré que, Richard, tu vois les Kings gagner ça. Moi, je vois pas les Kings gagner ça. Savez-vous quoi? Moi, il y a quelque chose que j'ai aimé. Pour la première fois depuis longtemps, on a arrêté d'essayer de vouloir battre des records en saison régulière. On a reposé les gars. McDavid s'est reposé. Hier, pour le dernier match, tout le monde était reposé. On a décidé de mettre l'emphase sur les séries de fin de saison. Donc, chapeau aux Oilers d'Edmonton. Et je les mets, moi, en 6 face aux Kings de Los Angeles. Et pour la dernière série, eh bien là, ça va amener mon deuxième sujet. La surprise des séries, je vais vous demander ça, puis moi je commence avec la mienne. La surprise des séries, pour moi, ça sera les Golden Knights de Vegas qui vont sortir les Stars de Dallas, Antoine Roussel. Tintoué, boum, 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 mon cher ami Antoine.
Ouais, mais attends, écoute, ça va me faire, non, mais ça va me faire plaisir. Comme disait Richard, pour reprendre son expression, il va y avoir du monde qui va avoir tort. Ça va me faire plaisir de te le remettre dans les dents quand ça va être le temps.
Ah, vas-y, Richard.
J'aime ça un peu. Jérémy, j'ai de la misère avec l'expression surprise. Parce que là, tu es en train de dire que les champions en titre vont gagner une série.
Non, mais je regarde le classement. Écoute, le classement général de l'année, 113 points pour les Stars de Dallas contre 98 pour les Golden Knights de Vegas. Sauf que. Ouais. On sait comment ça fonctionne. On a toujours la petite cachette de la liste des blessés à long terme. Mark Stone peut revenir avec les Golden Knights. Là, on a Thomas Hertel qui s'amène. On a Marchessault qui est là. Sincèrement, moi, je pense que Dallas va trouver ça bien compliqué de jouer contre les Golden Knights.
Ça ne sera pas la même chose. Honnêtement, le terme surprise dans le hockey d'aujourd'hui est un peu galvaudé parce qu'il y en a de moins en moins parce qu'on accepte presque plus. Il y a un temps, là, dans les années 80, on acceptait des clubs de 495 d'insérie. Là, il n'y en a plus. Là, il n'y a plus ça. Les équipes qui sont là sont pour la plupart de très bonnes équipes. La seule surprise, s'il y en avait vraiment une, pour moi, c'est du côté de Washington parce que je pense que les autres sont vraiment arrivés là. L'expression par la porte arrière, eux autres, c'est même pas une porte, là. C'est une ouverture de bout de fenêtre. Ils sont rentrés, ils ont réussi à rentrer comme ça. Mais pour moi, ça serait vraiment la seule surprise s'il y en avait une. Le reste, tu sais, regardez les équipes qui sont en lice. Il y a pas de mauvaises équipes là-dedans. Là, oui, tu peux dire qu'il y a des équipes qui sont supérieures. Mais le mot surprise, il va être de plus en plus difficile à appliquer, je pense.
Ouais, mais c'est ça. On est là pour ça, un balado, pour galvauder des expressions comme ça et parler de surprise, mon cher ami Richard. Ouais. Donc, toi, tu dis la seule surprise qu'il peut avoir, c'est si Washington bat les Rangers, c'est tout.
Pour moi, c'est la seule équipe vraiment. Je ne veux pas dire qu'ils n'ont pas d'affaires là, mais la seule équipe, un petit peu le mouton noir de ce portrait-là, vraiment, c'est les Capitals parce que. Ils ont pas vraiment eu... ça a été très long avant qu'Ovechkin se mette en marche. Après ça, on savait pas trop ce qui se passait devant le filet. C'est Charlie Lindgren, d'ailleurs, je vous le rappelle, qui est devant le filet là-bas. Sympathique jeune homme, par ailleurs, mais ouais. Probablement pas un candidat au Trophée Vézina.
Fait que tu prends les Capitals en quatre, Richard, c'est ça?
Non, pas du tout, non. Et puis d'ailleurs, ça, c'est une autre affaire. Je vais m'emporter deux secondes, Jérémy. Si tu me laisses le temps, mais c'est parce que j'écoute depuis ce matin nos collègues dans les différents médias et beaucoup de gens encore analysent ou font se trouvent des façons là, d'arriver à des prédictions en partant là, avec les gardiens. Et écoute, ça me renverse à chaque fois parce que on faisait ça dans les années 70 puis 80 puis 90 là, quand il y avait clairement les gardiens de but qui étaient clairement supérieurs aux autres. Puis là, ben, c'est quand t'avais Patrick Roy devant ton filet ou Martin Brodeur devant ton filet, t'sais, clairement t'avais une avance sur les autres. Ça, il y a été un temps où c'était ça. Mais aujourd'hui, c'est plus du tout ça. D'ailleurs, je regardais la dernière fois. Écoutez, en 10 ans, il y a un gardien qui a été nommé au Conn Smythe. C'est vraiment très peu, là, alors que dans les années 70, dans les années 80, souvent, le club champion, c'était le gardien de but qui ramassait le Conn Smythe. Donc, de moins en moins, ça, c'est une différence. Et moi, ce que je regarde de plus en plus, c'est la ligne de centre. Pour moi, c'est là que ça se joue. Et les clubs qui avancent maintenant, ce sont les clubs qui sont les mieux nantis au centre.
OK. Alexandre, tu veux réagir là-dessus?
Moi, je prends les Rangers. Bien sûr.
Bravo. Bon choix judicieux.
Ça va être une surprise. Non, mais je suis plutôt d'accord avec Richard sur le fait qu'il y a peu de surprises possibles parce qu'en fait, ce sont surtout presque tous ces clubs-là étaient dans les séries déjà l'année dernière, tu sais, puis même il y a 2 ans. Donc, ce sont des clubs qu'on est déjà habitués de voir en série. C'est pas comme s'il y avait eu un renouvellement de garde, puis que là, je sais pas, les Sabres ou les Red Wings ou les Sénateurs étaient entrés dans les séries. Donc, il y a moins de surprises possibles. Tu sais, même je regarde, tu sais, peut-être une grosse surprise au printemps, ça pourrait être Tampa Bay qui pourrait battre la Floride, parce qu'il y a quand même un gros différentiel.
Moi, je l'avais, là, 110 la points pour
moi,
la Floride.
Moi, je le vois, ça. Je le vois.
C'est quand même un club qui a gagné. J'ai arrêté de compter. Ils sont rendus à combien de coupes cette année, eux autres, là?
3, je pense. Mais Antoine, toi, tu vois... Antoine puis Jérémy, vous
moi,
voyez...
Moi, je vois Tampa Bay passer.
Moi, je vois Tampa en 6. Moi, je vois Tampa en 6.
Mon Dieu. OK, ben, ma surprise, d'abord, je vais aller avec les Panthers parce que je suis tout seul dans mon camp. Non, mais je pense que c'est une équipe élite défensive, là, les Panthers. J'en ai parlé plus tôt tantôt. Je pense que des équipes comme les Panthers et les Hurricanes vont se rendre loin en série parce que c'est des équipes qui excellent à prévenir des buts, parce que tous les clubs qui sont en série présentement, sauf peut-être les Capitals, là, sont capables de marquer 3, puis 4, puis 5 buts par match normalement dans une saison. Là, ça va être plus difficile, puis l'équipe qui va avoir le petit edge, là, le petit surplus sera l'équipe qui va excellent en défensive. Écoutez, je pensais pas dire que les Panthers seraient une surprise, mais j'y vais avec les Panthers.
OK, mais là, je veux juste ajouter quelque chose. Pour la Floride, cette saison, c'est 110 points récoltés contre 98 pour Tampa Bay. Ouais. La question, puis Antoine, je veux t'entendre là-dessus, est-ce que c'est possible d'aller, malgré que Richard a dit ça dépend pas du gardien de but, ouais, t'as quand même Vasilevski qui est là. Tu peux-tu aller contre Vasilevski? Peux-tu aller contre Kucherov dans une série face aux Panthers de la Floride? Moi, ma réponse, c'est non. Je peux pas aller contre ces gars-là.
Moi non plus. Puis à chaque fois que je prends ou je pense que c'est le début de la fin du côté de Tampa Bay, ils me le remettent dans les dents. Donc, je peux pas ne pas considérer le fait qu'ils soient capables encore avec un gardien exceptionnel d'amener ça à un autre niveau. Puis durant la saison, le gardien exceptionnel, il n'était pas exceptionnel, mais il a très bien fini sa saison. Et c'est là que le bas blesse. Puis on parle aussi, on entend des balbutinements sur le fait que peut-être Sergachev pourrait revenir cette année. Du moins, c'est ce qu'on lit sur la toile. Donc, pour moi, si en plus ils sont capables de récupérer ce défenseur-là, ben c'est, on parle plus d'une équipe qui a beaucoup de trous en défensive. On parle d'une équipe où il y a 5 bons défenseurs qui sont capables d'accumuler des grosses minutes. Donc, pour moi, c'est un peu ça qui va faire la différence. Et en plus, tu as un avantage numérique complètement dévastateur. Oui, ils n'auront pas 150 chances comme dans la saison, mais eux, généralement, ils ont une chance, ça fonctionne.
OK, vas-y, Richard.
Moi, Jérémy, j'allais dire, ça me ferait aussi, parce qu'en cours de saison, tu sais, malheureusement, ben, pas malheureusement, mais la réalité, quand tu suis une équipe, en ce cas-ci, le Canadien, ben, tu sais, des fois, tu vois un peu moins les autres, puis ça, c'est normal. Hein? Il y a juste 24 heures dans une journée. Mais à un moment donné, j'entendais dire, ouais, Stamkos a ralenti, ah, c'est plus de même. Puis, je regarde ses chiffres, 81 points. Il y a beaucoup de monde qui aimerait ça avoir ralenti comme ça. Là.
Ben, je verrai que les chiffres. C'est clair. Messieurs, des 16 équipes dans les séries, quelle équipe a donné le plus de buts cette année?
Le plus, donné le plus. Moi, ouais, j'ai celle qui a donné moins de buts, mais le plus, c'est qui?
Le Lightning.
Ah ouais, mais qui?
Ouais, 200, ouais, mais
c'est qui le meilleur avantage?
Ils ont donné presque un but de plus par match que les Panthers.
Mais Vasilevski était blessé une bonne partie de la saison.
Ouais, mais ça a plutôt bien été au début de l'année, là.
Ben, ça veut pas dire.
Mais exactement, c'est les chiffres. On peut toujours leur faire dire tout ce qu'on veut aussi, nous. Puis, le fait que, justement, Vasilevski était blessé en début de saison, ben, pour moi, ça fait toute la différence, là. C'est ça qui a fait en sorte que tu avais deux gardiens qui ont eu de la misère en début de saison. Vasilevski, quand il est revenu, il a eu de la misère, lui, avec. Donc, pour moi, je prends cette statistique-là avec un gros grain de sel.
OK. Ouais. Là, je suis pas un grand fan de stats, mais je pense, pour appuyer ce qu'on est en train de parler, les Panthers de la Floride a été l'équipe qui a frappé le plus cette saison avec 2339 mises en échec. OK? On va vouloir faire ça contre le Lightning. Vous avez vu, là, qu'est-ce qu'on fait du côté de la Floride, là. C'est papier sablé. On va vouloir faire ça contre le Lightning de Tampa Bay. Le Lightning de Tampa Bay a eu le meilleur avantage numérique cette saison à 28,6% d'efficacité. Fait que si tu frappes Tampa Bay, tu prends des punitions, ils te font payer le prix en avantage numérique. Bye bye, les Panthères de la Floride. Ça sera en 7 pour moi,
Lightning. On en reparle dans 2 semaines.
Ben, écoute, c'est ça la beauté de tout ça. Là, on va faire une courte pause. Pour retour, on va parler en combien de matchs les Hurricanes vont battre les Islanders de New York. Restez là. On est de retour au balado, sortie de zone, saison 5, épisode 55, avec Alexandre Pratt, Richard Labbé et Antoine Roussel. Bon, les gars, j'ai fait une blague avant d'aller à la pause. Je disais, en combien de matchs les Hurricanes vont battre les Islanders de New York? Suis-je le seul sur mon île déserte à penser que les Hurricanes vont gagner 105 contre les Islanders, Alexandre?
Je pense que j'ai mis en 6.
Mais moi également.
Oui, ben, parce que... je pense qu'il va y avoir un facteur Patrick Roy quand même.
Tu penses?
De la façon de motiver les joueurs, absolument.
Là, tu t'attends une déclaration dans un point de presse à un moment donné, puis blablabla, puis c'est ça.
Il connaît tous les trucs là, quand même, là, puis il l'a déjà fait dans le junior notamment. Puis il l'a vécu dans la Ligue nationale. En raison de son leadership, tu sais, je vois pas ça finir en 4. Je pense que ça va être un petit peu plus long, mais je reviens à ce que je dis depuis le début. Les meilleures équipes défensives vont gagner. Je veux dire, les Hurricanes, c'est hallucinant. C'est l'équivalent des Oilers, mais de l'autre bout de la patinoire. Là. Je veux dire, en prévention de but, ils sont extraordinaires. Je vois pas les Islanders passer à travers les Hurricanes. Donc, je vais Hurricanes en 6.
Les Hurricanes à Caroline ont le meilleur des avantages numériques de la saison, à 86,4% d'efficacité. Richard, Hurricanes gagne ça en 5, en 6, en 7, ou tu vois une surprise par les Islanders?
Ouais, écoute, j'aurais aimé ça penser que les Islanders sont capables. J'étais là récemment, c'est vraiment une belle équipe. C'est vraiment une équipe qui s'est ralliée. Ça a pris un petit peu de temps, mais c'est vraiment une équipe qui s'est ralliée derrière Patrick Roy. Ça a pris un peu de temps que le système soit compris par tout le monde, mais là, on a finalement réussi à y arriver. Sauf que, ben, c'est ça. Tu regardes un petit peu ce qui est en face. Tu sais, pour moi, les Hurricanes, on parle beaucoup de Patrick Roy, là, mais le gars derrière le banc là-bas, il fait un solide travail. Sérieusement, Rod Brind'Amour, là, c'était, je me souviens de lui quand il jouait, c'était, en anglais, on appelait un student of the game, là, tu sais, le genre de gars qui étudiait le jeu. Et maintenant, c'est ce qu'il est en train un petit peu là, d'offrir à ses joueurs. Et ses joueurs jouent, je pense, le type de hockey qui se rapproche le plus d'un système complet présentement parmi les équipes qui sont encore là. C'est-à-dire que pour moi, les Hurricanes, il n'y a aucune faiblesse évidente, nulle part, ni en attaque, ni en défense, ni aux unités spéciales. C'est un club qui est équilibré d'un bout à l'autre, qui est très, très difficile à affronter et qui est excessivement bien dirigé, encore une fois, au risque de me répéter. Alors, c'est, pour moi, une équipe complète comme ça, c'est... En fait, je serais très surpris si eux n'atteignaient pas la finale.
OK. Antoine, les Islanders ont montré du 3-1-1 étouffoir, où t'as pas de place nécessairement pour prendre la vitesse en zone neutre. Penses-tu que les Hurricanes sont capables de contourner ça et dominer les Islanders de New York?
Je pense que oui. Je pense que ça va être la stratégie à avoir. Le 3-1, pour moi, c'est en fait, ce qui est difficile là-dedans dans ce format, c'est de rentrer en contrôle, en possession de rondelles. Mais quand t'as une équipe qui est rapide, puis je pense que les Hurricanes le sont rapide, ils vont avoir du temps, et je veux pas dire qu'ils vont nécessairement avoir beaucoup de temps en zone neutre, mais s'ils sont capables de faire reculer un petit peu plus dans leur territoire, prendre de la vitesse là, puis attaquer vraiment le 1-1-3 de cette manière-là, vont être capables de probablement de rentrer en vitesse. Donc ça, c'est une chose. Mais moi, je trouve que les carences qu'ils ont eues dans les années antérieures, le fait d'avoir pas nécessairement énormément de marqueurs, énormément de créateurs ou de joueurs créatifs dans leur alignement, ça va faire en sorte que ça les a ralentis. Parce, tu sais, là, ils ont ajouté deux gros joueurs, Guentzel notamment, pour amener cet aspect-là, cette créativité-là. Donc, pour moi, ça va sans l'ombre d'un doute que cette équipe-là va faire un très long bout de chemin en 16 éliminatoires.
OK. Vas-y, Richard.
Oubliez pas, là, il n'y a personne pendant ce temps-là. Vous savez, des fois, il y a un ours qui dort et qui sort de son hibernation, puis il n'y a personne qui parle de Jesperi Kotkaniemi, qui est certainement capable de...
Brouiller les cartes. D'aller de la profondeur.
Faisait des blagues, va faire absolument rien.
Hey, c'est quoi,
Jérémy, t'es qui, toi, dans la série?
4.8, hein? 4.8, notre ami Kotkaniemi pour encore pour plusieurs années. Ouais. Encore.
T'es qui, toi, dans cette série-là, Jérémy?
Les Hurricanes en 5. D'accord. Je vois les Hurricanes en 5, mais je pense que Patrick Roy, et je souhaite que Patrick Roy soit capable de... Tu sais, Rod Brind'Amour, c'est un gars extrêmement émotif aussi. Tu sais, s'il est capable de le piquer, puis tu sais, ça peut déstabiliser les Hurricanes, mais je pense que les Hurricanes de la Caroline ont vraiment une grosse formation. Les gars, il y a trois séries qu'on a vraiment passées quasi sous silence. Les Rangers contre les Capitals, les Jets contre l'Avalanche du Colorado, les Predators contre les Canucks de Vancouver. OK, on fait un tour de table là-dessus très, très rapide. Alexandre, Rangers, ça gagne ça en quoi? En 5 contre les 14?
Rangers en 6.
Rangers en 6. Ouais. OK, Richard, Rangers en combien?
Écoute, on n'aura même pas le temps de s'asseoir avec une bière, ça va être en 4.
En 4, c'est vrai que c'est pas long, ça.
Ouh, Richard, j'aime ça, l'agressivité.
Ça manque
je pense que ça va aller en 5 quand même.
En 5 pour toi, Antoine?
Ouais, en 5.
OK, fait que donc, personne qui est convaincu de Charlie Boyd, Charlie Lindgren, non? Okay.
Ben, c'est ça que j'allais dire, Jérémy. Mais je souhaite une victoire des Capitals à cause de Charlie Lindgren, qui est peut-être le gars le plus gentil qu'on a rencontré. Écoute, ce gars-là est une soie. Écoute, si jamais les Capitals gagnent, je vais être super content pour lui. C'est vraiment un bon gars.
OK, parfait. Colorado contre les Jets. Les gars, on va vivre quelque chose là-dedans. Le Colorado, l'Avalanche du Colorado, c'est elle qui a marqué le plus de buts. C'est la formation qui a marqué le plus de buts en saison régulière avec un grand total de 304. Contre la formation qui en a accordé le moins, les Jets de Winnipeg, 199. D'un côté, tu as McKinnon, Drouin qui s'est blessé dans le dernier match de la saison. Blessure à une cheville, semble s'être tordu la cheville droite. Et du côté des Jets, ben tu as les Jets de Hollebuyck. Comment vous voyez cette série-là, Alexandre? Je commence avec toi.
J'y vais encore avec le meilleur club défensif des deux. Je vais avec les Jets. Qui d'ailleurs ont très bien joué là, cette année contre l'Avalanche. C'est un club qui a bien joué toute l'année. C'est un club qui a de la profondeur en attaque aussi, qui est capable de marquer des buts. Mais encore là, je reviens, je pense que défensivement, c'est une des rares équipes qui va être capable de contenir la puissance de l'Avalanche.
OK, Antoine, le punch à l'attaque de l'Avalanche, le McKinnon Mania et Rantanen et tout ça n'arrivera pas à arrêter les Jets selon toi?
Moi, sincèrement, je pense que les Jets, c'est mon équipe Cendrillon, je pense, pour ces séries éliminatoires. Je pense qu'ils vont gagner en 7. Puis ça va prendre une grosse performance défensive de Hellebuck. Mais c'est pas évident de gagner contre les Jets en séries éliminatoires. C'est un amphithéâtre qui est quand même un petit peu plus petit, qui amène une ambiance totalement différente, survolté. J'ai l'impression que ça va être, puis je peux me tromper, là, mais s'il y a une surprise à avoir, ça va être cette surprise-là.
OK. Richard, ton côté, Colorado, Jets?
Ouais, écoute, les Avalanches, mon cher Jérémy.
Les Avalanches, ah oui.
Les Avalanches, parce qu'il va en avoir plusieurs. et puis, écoute, on a eu j'ai eu l'honneur, il y a 48 heures, de voter pour les trophées, là, les 5 trophées de la Ligue nationale de hockey, lesquels les journalistes.
Peux-tu les avoir en primeur?
Je ne sais pas si j'ai le droit, mais je peux te dire que oui, j'ai le droit. Je pense que oui. De toute façon, c'est rendu public, mais dans mon heart, d'ailleurs, j'ai hésité un petit peu, mais je l'ai donné à lui, à Nathan McKinnon, parce que je pense que c'est vraiment... rarement, tu entends dire qu'un joueur fait une équipe, là, c'est pas vrai, là, c'est très rare qu'un joueur qui fait une équipe, mais si on a quelqu'un qui se rapproche de ça, qui tire son club vraiment à chaque soir, c'est beaucoup lui. Je pense que du côté des Jets, on n'arrête pas de parler d'Hellebuyck. Et puis, c'est comme si Hellebuyck allait gagner ça à lui seul. Ça non plus, je ne crois pas à ça. La seule façon, je pense, que les Jets peuvent gagner, et ça se peut que ça arrive, c'est que si on se met à accrocher puis à retenir puis à embarquer sur le dos de McKinnon, puis les arbitres font rien, comme souvent ça se passe en série, là, on nivelle vers le bas. C'est sûr que ça serait un avantage pour les Jets. Mais autrement, l'Avalanche, le style de jeu beaucoup plus offensif qui, d'après moi, devrait leur permettre de gagner la série. Je les ai mis en 6.
OK, fait que toi, t'as préparé déjà ta défaite quand tu vas perdre après pour dire « Ah, c'est parce que les officiels n'ont pas fait le job. »
Ouais, c'est probablement ça que tu vas le faire, c'est ça.
OK, les Jets, moi, je mets les Jets de Winnipeg en 6 dans cette série-là face à l'Avalanche du Colorado. Et dans la dernière série, les Prédateurs de Nashville contre les Canucks de Vancouver, je commence avec moi, j'ai mis les Canucks en 6, puis après, j'ai dit « OK, en 6, mais... » Les Canucks ont été excellents cette année. On parle de quoi? 109 points pour les Canucks de Vancouver. Ils ont été excellents cette année. Après une saison difficile, on a changé de coach. Rick Tocchet s'est amené. Tout le monde a explosé. Mais est-ce que c'est du sérieux, les Canucks de Vancouver? Puis sincèrement, je me suis tout à coup que Nashville joue un tour aux Canucks. Je vais avoir votre point de vue là-dessus. Je commence avec Alexandre.
Moi aussi, je vais avec les Canucks en 6. Puis je pense pas que la surprise va avoir lieu. Je le sais là, que c'est un petit peu un choix populaire là, d'y aller avec les Prédateurs en surprise. Je vois pas ça arriver. Les Canucks n'ont pas eu beaucoup de slump. Il n'y a pas eu beaucoup de léthargie cette année. C'est un club qui a été très, très stable, qui est extrêmement bien construit aussi en attaque. Puis j'aurais pas dit ça l'année dernière nécessairement, mais c'est vraiment un club qui s'est amélioré. Je pense que l'arrivée aussi de Philippe Ronek, ça a donné beaucoup plus de punch à cette formation-là. Donc je vais avec les Canucks, il n'y aura pas de surprise de ce côté.
Parfait. Antoine, ton ancien club, les Canucks, est-ce qu'ils gagnent ça contre les Prédateurs de Nashville?
Je suis d'accord aussi avec Alex. Pour moi, c'est facile un peu de voir peut-être une surprise là parce que les Canucks ont tellement bien commencé la saison, puis après ça. Je dirais même que après le contrat d'Elias Pettersson, on aurait dit que ça avait ralenti. Puis ça a fait en sorte que ils ont pas nécessairement, je trouve, fini la saison en Lyon. Ils ont bien fini la saison, somme toute. Leur power play, leur avantage numérique est dévastateur. Ils sont dominants. Quinn Hughes, il est dominant aussi. Puis c'est ça qui est intéressant de le voir évoluer. Puis ça va être difficile de contenir vraiment l'attaque des Canucks. Mais j'ai aimé ce que j'ai vu de Nashville cette année. Puis ils sont rentrés en série en force. Donc c'est pas anodin de voir peut-être une surprise là, mais mon cœur est encore avec les Canucks. Je vous ai dit, j'ai de la misère à couper les cordes. Puis je vois les Canucks avec en 6 pour moi également.
Richard, est-ce que tu seras celui qui sera encore une fois seul sur ton île déserte?
Je suis constamment, mais pas là-dessus. Okay. je pense que je vais me rallier à tout le monde. Ben oui, les Canucks, surtout que dans le cas des Canucks, tu sais, il y a des clubs qui ont, on peut dire, qui ont l'avantage de la glace, mais eux, ils l'ont vraiment. Tu sais, ils ont perdu seulement 9 fois cette saison à Vancouver en temps régulier. Donc, de demander aux adversaires dans ce cas-ci, les Prédateurs, de débarquer là-bas, d'aller peut-être voler un match en partant. J'ai de la misère à voir ça. Je pense que si les Prédateurs avaient l'avantage, peut-être, un gros peut-être, mais avec l'avantage de l'As pour les Canucks, ça va être pas mal mission impossible pour les Prédateurs.
En combien, les Canucks?
En 5.
Oh, wow, ça c'est une domination des Canucks de Vancouver. OK, hey, on va s'arrêter là-dessus pour retour. On va se parler de ce dossier qui s'éternise depuis maintenant des années. C'est terminé pour les Coyotes de l'Arizona. On s'en va du côté de Salt Lake City. Les gouverneurs ont voté. Le club a été vendu à la Ligue nationale. Salt Lake City a racheté le club. Ça sera terminé pour les Coyotes de l'Arizona. À moins que d'ici 5 ans, il y a l'impression que ça finira jamais avec les Coyotes de l'Arizona. On fait une pause là-dessus. On est de retour au balado Sortie de zone saison 5, épisode 55 de ce vendredi 19 avril avec Alexandre Pratt, Richard Labbé et Antoine Houssel. Les gars, je sais qu'à la presse, vous avez traité le dossier, vous le traitez en long et en large, le dossier du transfert des Coyotes de l'Arizona vers Salt Lake City. Donc, ça a été racheté par la Ligue nationale de hockey au coût de 1 milliard de dollars. Par la suite, on a revendu ça à Smith Entertainment Group, propriétaire du Jazz de Utah. Donc, la saison prochaine, il y aura du hockey du côté de Utah et ça sera une nouvelle formation de la Ligue nationale de hockey. Richard, dans un premier temps, on a l'impression que c'est un dossier qui ne finit plus avec les Coyotes. On va donner encore une chance aux Coyotes. En plus, on donne un beau 5 ans au propriétaire pour dire « Hey, si tu trouves un terrain, là, rappelle-nous, ça nous tente encore. Là. Ça finit plus. » Là.
Pour les gens qui se demandent pourquoi, là, Gary Bettman nous a déjà expliqué ça à quelques reprises. En fait, c'est que la Ligue nationale de hockey, de plus en plus, puis on le voit là, depuis peut-être une quinzaine d'années, une vingtaine d'années, on mise beaucoup sur le potentiel médiatique des marchés et évidemment financier. Donc, dans ce cas-ci, le calcul que la Ligue fait, et c'est la même chose qu'on fait avec Atlanta par ailleurs, là, parce qu'on a perdu deux clubs avec Atlanta, puis on est en train de se demander si on ne peut pas ramener un troisième, c'est qu'on se dit, bon, probablement que les fois d'avant, les circonstances n'étaient pas les bonnes, est-ce que l'aréna n'était peut-être pas à bonne place, est-ce qu'on avait les mauvais propriétaires, bon, tu sais, on peut se poser un paquet de questions, parce que quand on voit les chiffres, purement les chiffres, c'est sûr que l'Arizona et après ça Atlanta, ce sont deux marchés très importants. Maintenant, dans les deux cas, ça s'est jamais transformé en marché de hockey. Tu sais, on peut bien dire, on peut parler de potentiel économique et médiatique longtemps là, dans le cas de l'Arizona, mais jamais est-ce que ça s'est transformé en quelque chose d'authentique au guichet, en tout cas. Alors, je pense que Gary Bettman aussi, il y a un petit peu de malheureusement d'égo là-dedans, c'est-à-dire que lui, il a vendu ça aux autres gouverneurs. Gary Bettman ne va pas admettre un échec, ne va pas dire à tout le monde « Écoutez, je me suis complètement trompé. » Alors, ce que Gary Bettman a réussi à faire, et ça, c'est très habile, mais ça démontre encore une fois tout le pouvoir, toute l'influence de Gary Bettman, c'est qu'il a réussi à faire comprendre, ou en tout cas à faire avaler aux autres gouverneurs, « Écoutez, les circonstances n'étaient pas bonnes en Arizona, mais là, s'ils finissent par trouver un endroit qui a de l'allure pour un aréna, vous allez voir que ça va marcher. » C'est incroyable. Lui, il a dit ça et les autres gouverneurs ont embarqué. Alors, c'est pour ça qu'on ouvre la parenthèse pour 5 ans là-bas, même si, en particulier, si tu regardes ça du côté de Québec, tu dis, voyons donc, ça n'a aucun bon sens. Ils vont avoir combien de chances? Mais c'est même pas une question d'amour du hockey. Là. On n'est pas là-dedans du tout. On est juste dans les chiffres et dans le potentiel des chiffres.
OK. Antoine, ça sera un autre lien dur à couper parce que tu as joué pour les Coyotes de l'Arizona. Qu'on tienne cette fenêtre-là ouverte, est-ce que c'est quelque chose que tu vois, c'est une bonne chose selon toi que la Ligue nationale fasse ça avec l'Arizona?
Ben, je pense que oui, puis quand on écoute plusieurs experts puis locaux, puis on lit les médias locaux aussi, ben je pense que dans la situation de Gary Bettman, il voulait s'éviter au maximum, parce que il voulait s'éviter au maximum le risque de poursuite pour la Ligue nationale, parce que c'est une chose d'enlever le club à quelqu'un, mais la personne va vouloir, si on l'enlève puis que t'as pas un bon accord, elle va vouloir se défendre. Tu sais, si t'as quelque chose chez vous, on rentre, on dit ben ça, je te le prends, puis tu sais c'est qui te l'a pris, ben toi tu vas vouloir revoir ton jouet. Là. Donc éventuellement, c'est une belle porte de sortie. Ça donne l'option dans le fond à la Ligue nationale et aux propriétaires de remplir ce qu'il devait remplir. Ça lui donne le choix de prendre les choses en main. Maintenant, est-ce qu'il sera en mesure de le faire? Faut pas oublier que ce propriétaire-là, c'est probablement dans la vallée, comme ils le disent, là-bas, c'est probablement une des personnes d'affaires les moins bien appréciées. Ouais. Quand tu payes jamais tes factures, c'est au final, ben tu bâtis une mauvaise réputation et ça a une grosse incidence sur ta réputation et le fait de faire des affaires. Donc, à ce moment-là, quand tu veux avoir des votes en ta faveur, tu ne les as pas pour ces raisons-là. Donc, il est en mesure de bâtir une aréna, tant mieux pour lui, mais je pense qu'il va avoir beaucoup de bâtons dans les roues pour le ralentir. Maintenant, ceci étant dit, pour parler des autres marchés, la Ligue nationale manque. Ben, quand on regarde la NFL, il y a 32 équipes juste aux États-Unis. Dans la Ligue nationale, c'est 25. Donc, tu auras un potentiel de grandir la Ligue de 7 autres marchés aux États-Unis. Puis comme Richard le dit, il se pose des calculs et quand on regarde froidement ces choses-là, ben on se dit que ben c'est sûr que ça va aux États-Unis. Logiquement, ça fonctionne comme ça. Et c'est pas le cœur qui parle, comme l'a si bien dit Richard. Donc, bien évidemment, c'est le calcul qu'ils font. Puis si est-ce que ça sera un succès comme ça l'a été à Vegas? Est-ce que ça sera un succès comme ça l'a été à Seattle? Ça, on le sait pas. Mais chose certaine, c'est que ce matin, ils avaient déjà la demande pour 11 000 billets de saison. Donc, c'est quand même assez important. Puis, c'est arrivé en moins de 24 heures, ces demandes-là. Donc, ils n'auront pas besoin de pousser énormément pour vendre leurs billets, du moins dans un avenir rapproché. Surtout qu'ils vont avoir une bonne équipe.
Ouais,
très rapidement.
OK, je comprends. Sauf que faut se souvenir aussi qu'avec les Jets de Winnipeg, en plus qu'on en ait vendu pas loin de 10 000, 11 000, c'était pour 3 ans. Tu vois que les conditions sont différentes un peu avec les équipes canadiennes. Alexandre, je veux savoir une chose. Est-ce que Salt Lake City, c'était le meilleur choix ou le choix le plus lucratif?
Ben, c'était assurément le choix le plus lucratif parce que c'est celui qu'ils ont choisi. Donc, c'est sûr que la Ligue nationale ou les gouverneurs n'auraient pas laissé d'argent sur la table. Il y a des plus gros marchés. Si on pense à Houston, on va penser à Atlanta, qui sont un petit peu plus quand même à l'est. Là. Mais la taille du marché, c'est une chose, mais à quel point aussi tu es capable de percer dans ce marché-là puis d'être le numéro 1 ou le numéro 2 dans ce marché-là, c'est tout aussi important. T'sais. Tu veux aller dans un marché où tu vas faire la différence puis pas être comme le cinquième ou le sixième club. T'sais, Houston, là, il y en a des équipes. Là. Ils ont les Texans, ils ont les Astros. C'est une grosse ville. Ils ont Dynamo Soccer. Ils ont une équipe de basket aussi. Là, tu t'en vas à Salt Lake City où il y a le Jazz au basket qui est extrêmement populaire. C'est une des équipes les plus populaires de la Ligue au niveau du cachet. Il y a une équipe de la MLS aussi qui est jamais super bonne, mais qui attire beaucoup de gens. Moi, je suis déjà allé voir de la MLS à Salt Lake City. Je veux dire, c'est un gros stade, c'est plein.
Qu'est-ce que ça a la ville?
Mais d'abord, c'est une belle ville. C'est dans les montagnes. C'est super beau. C'est bucolique. Et pas très loin de la ville, il y a un équivalent de Tremblant qui s'appelle Park City où il y a eu les Jeux olympiques. C'est à peu près à 30 minutes de la ville, 30-45 minutes. C'est une ville riche, ça respire l'argent. Là, je suis allé 3 fois, je pense. Puis, c'est vraiment une ville qui respire l'argent. Bon, évidemment, la ville est aussi Et en fait, ce qui frappe dans la ville, c'est toutes les institutions mormones. C'est quand même la capitale des Mormons. Il y a un gigatemple au centre-ville. Il y a beaucoup de sollicitations. Mais c'est une très belle ville. Les joueurs qui vont aller là, je pense, franchement, vont adorer. Il y a vraiment... c'est une belle qualité de vie. Là. C'est dans une des plus belles villes pour ça aux États-Unis. Et l'autre chose aussi, c'est que les gens sont acquittés, supportent leur ville, ils supportent leurs entreprises, ils supportent leurs institutions. Fait que moi, je pense, franchement, ça va être un gros succès. Là. Le hockey là-bas, je pense que c'est une ville qui est bonne pour ça. L'autre chose, c'est que Salt Lake City tente de se positionner pour avoir les Jeux olympiques. Je pense qu'elle va les avoir d'ailleurs tôt dans les années 2030. C'est sûr que d'avoir un club de la Ligue nationale plus slash combiner ça avec, avec les Olympiques, c'est bon pour la ville.
L'autre affaire dans ce dossier-là, Jérémy, pour les gens qui se demandent un peu aussi pourquoi Salt Lake et pas quelqu'un d'autre, c'est que le propriétaire Ryan Smith, sa fortune personnelle est évaluée à quelque chose, si je ne me trompe pas, c'est en haut de 2 milliards de dollars US. Et on a eu les premières rumeurs de Salt Lake, en fait, ce n'était pas des rumeurs, c'est carrément lors de la conférence de presse de Gary Bettman et de Bill Daly au début de la finale de la Coupe Stanley en juin à Vegas. Quand on a parlé on a posé des questions sur l'expansion, est-ce qu'il y en aurait une, Québec, tout ça. Et c'est Bill Daly lui-même, sans qu'on lui en parle, qui dit « Ouais, puis en passant, il y a quelqu'un à Salt Lake City qui est intéressé, puis c'est Ryan Smith, tout ça. » Et ça, c'est excessivement rare. Moi, en tout cas, je pense que c'est la première fois que j'entendais le dirigeant ou un des dirigeants, un des hauts placés de la Ligue nationale de hockey, nommer une ville potentielle, parce que la Ligue est toujours très discrète avec ce genre de...
Entendons-nous, Richard, ça s'est passé vite en bébite, là.
C'est de façon extraordinaire.
Si tu compares ça, mettons, les démarches de Kansas City, puis de Québec, puis de Houston, puis d'Hamilton dans le temps, puis ça s'est fait super vite. Fait qu'à un moment donné, c'est quand t'as énormément d'argent, là, puis t'es prêt à mettre 1,3 milliard pour une équipe, il y a des bonnes chances que t'aies une équipe.
Mais les gars, je suis pas sûr que ça soit le meilleur deal qui était sur la table. Tu sais, je pense que c'est un bon deal pour la Ligue nationale parce que on s'enlève une grosse épine du pied qu'on avait dans un marché qui perdait de l'argent pendant des années. Maintenant, on va être dans un marché qui va être rentable. Mais dans le fond, avec cet échange-là, on garantit un club d'expansion au propriétaire à l'ancien propriétaire Marullo pour 1 milliard. Là, en ce moment, quand tu achètes un nouveau club, la barre est à 1,2 milliard, on s'entend. Ça va être ça minimum pour une équipe de la Ligue nationale. Mais dans 5 ans, tu sais, je trouve que ça gèle l'expansion à ce prix-là. Est-ce que ça va être rendu là? Est-ce que les équipes sportives vont valoir encore plus à ce moment-là? On le sait que ça a explosé dans les dernières années. Est-ce que ça va continuer là-dessus? Peut-être que les propriétaires vont avoir un manque à gagner à ce niveau-là, ou du moins, la Ligue va probablement en avoir un.
Mais Antoine, honnêtement, je pense que les chances que le hockey retourne en Arizona dans les 5 prochaines années sont plus faibles que celles des Sharks de se rendre en série l'année prochaine.
Ouf! C'est des
pas facile, les Sharks, ça.
C'est tous les lignes de l'Auto-Québec, ça?
Over-under. Tout ça. Bon, ben messieurs, hey, on va s'arrêter là-dessus. C'était donc cette première émission sur les séries de fin de saison. Ce qu'on va faire à partir de maintenant, notre prochain rendez-vous, ça sera le lundi. Donc, chaque lundi, on sera là. On aura eu la semaine d'activité, ce qui n'est pas le cas cette semaine, là. Mais on aura eu la semaine d'activité plus le week-end. On se reparle à chaque lundi au balado sortie de zone et on va être en mesure de savoir qui avait raison ou qui a tort.
Donc, mon triomphe, c'est dans 2 semaines.
On va attendre un petit peu là-dessus. Et Richard, ben là, tu diras si nous sommes tous dans l'erreur et c'est juste toi qui avais raison. Mais écoute,
c'est sûr, je vais vous le dire.
Non, je le sais, ça. Je le sais. Hey, ça fait un plaisir encore une fois. Merci beaucoup, Alexandre Pratt. Hey,
bon week-end.
Merci, Richard. Ça fait belle fun.
Merci à vous autres. Salut bien.
Toujours un plaisir, Antoine Roussel. Merci d'avoir été avec nous.
Ça fait plaisir. Salut.
Voilà ce qui complète le balado sortie zone épisode 55. On se reparle lundi le 22.